Bonjour à toutes et à tous. C'est dans l'amour et la joie que je vous salue aujourd'hui. Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente et l'espoir d'une rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, c'est-à-dire être capable de changement. Qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement, c'est au plus profond de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la réconciliation, l'unité intérieure. Seigneur notre Dieu, tu as promis d'être avec nous, d'être au milieu de nous. Accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de chanter notre joie. Et donc, je vous propose d'ouvrir ce culte en prenant le spontané, page 29, et de vous lever ceux qui peuvent. Les autres peuvent très bien rester assis s'ils se sentent mieux. Le spontané, page 29, nos cœurs te chantent. Et nous restons debout pour louer le Seigneur. Je vous prie, j'en profite pour le dire, de m'excuser si ma voix n'est pas aujourd'hui ce qu'elle devrait être. Voilà, les microbes circulent. Si nous écoutions le rythme trop rapide de nos vies, et si nous nous laissions le dernier mot aux tensions qui nous assaillent, nous pourrions nous laisser convaincre que le temps d'un culte est un temps gaspillé et qu'il vaudrait mieux l'utiliser autrement. Alors nous serions un peu comme les disciples reprochant à Marie de Magdala qui versait son précieux parfum sur le Christ de gaspiller un bien trop précieux. Mais nous croyons que pour mieux connaître le Christ, il n'y a rien de trop précieux, et pour approfondir notre recherche, aucune richesse n'est trop chère. Et puisque vous êtes justement venu pour offrir gratuitement votre temps, je vous invite à prolonger cette louange avec le cantique 242. Alors je vous invite à préparer dans le recueil Nos cœurs te chantent le psaume 77. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on chantera la première strophe après l'annonce de la loi, les strophes 2 et 3 après la prière d'humilité, la strophe 4 après l'accueil du pardon et la strophe 5 après la confession de foi. Donc le psaume 77, vous pouvez le préparer, ça vous évitera d'avoir à chercher tout à l'heure. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et nous aussi devons donc donner notre vie pour nos frères. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes amis, n'aimons pas en discours, en belles paroles, mais en acte et en vérité. Amen. Donc la première strophe du cantique soit du psaume 77. L'âme de douleur atteinte, élève au Seigneur ma plainte. Je le cherche au long des nuits et je tends les mains vers lui. Unissons-nous dans la prière d'humilité. Seigneur, nous te confessons notre péché. Nous te remettons tous nos jours passés, la lourdeur de nos instants sans foi, de nos instants sans toi. Nous te remettons nos oublis, notre indifférence, notre assurance, notre égoïsme, notre absence de ces tâches que tu nous as confiées. Nous te remettons nos manques d'amour, nos petites tricheries, nos petites mesquineries, nos veuleries et tous nos doutes. En toi seul est notre espérance, en toi seul notre courage peut renaître. Seigneur, pardonne-nous. Amen. 2 et 3.
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon de Dieu. Et vous pouvez garder le recueil de cantiques puisque nous continuerons à chanter le psaume. C'est une parole sûre, une parole de pardon et d'amour que chacun de nous peut accueillir avec confiance. Vous m'attendez dans la toute-puissance, dit Dieu, mais je suis dans la fragilité des humains. Vous me cherchez dans les étoiles au ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, mais je viens à vous dans la fraîcheur de la nouveauté. Vous me voulez comme réponse, mais je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous me façonnez à votre image, mais je vous surprends dans le dénouement d'un regard d'enfant. Mais dans les ruines de vos errances, un avenir de tendresse se prépare où je vous attends comme la nuit attend le jour. Et dès aujourd'hui, je suis au milieu de vous et je vous donne la grâce et la paix. Amen. Et nous chantons la strophe 4. Et je vous invite à rester debout pour la confession de foi. Vous en trouverez le texte, si vous souhaitez le consulter, dans le petit livre de liturgie. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés pour renouveler le monde. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui a besoin de notre amour. Nous croyons que Jésus, le Christ, est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. En lui, Dieu devient notre frère en humanité. Par son enseignement, il a manifesté la présence de Dieu sur notre terre. Par sa parole, il nous ouvre les portes du royaume. Nous croyons que Christ est présent lorsque des humains s'aiment. Nous croyons qu'il est présent lorsque des humains souffrent. Sa vie donne un sens à notre vie. Sa mort donne un sens à notre mort. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous soyons ensemble en Église et que nous sachions qu'il est vivant parmi nous. Nous croyons qu'il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Strophe 5.
La mer a connu ta gloire, ses flots ont vu ta victoire. La mer a vu tes rangées, le ciel a vu les
vous invite à vous asseoir. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une prédication en deux parties, à la suite de deux séries de lectures bibliques. Et cette prédication portera sur la Sainte Cène. Nous n'avons pas de célébration de... Ça va là ? Je vois des gens. Bon. Nous n'avons pas de célébration de la Sainte Cène aujourd'hui, mais comme nous l'aurons la semaine prochaine, et que ce sera le culte de la Réformation, je parlerai d'un sujet qui me paraît plus proche de ce thème. Et donc, j'ai pensé que c'était le moment, peut-être, en tout cas c'est ce que je souhaitais aujourd'hui, de parler de cette célébration. Donc, nous allons entendre successivement, après bien sûr la prière avant d'ouvrir la Bible, une première série de lectures bibliques, à la suite de laquelle nous chanterons les deux premières strophes du cantique 231, une première partie de prédication, une deuxième série de lectures bibliques, à la suite de laquelle nous chanterons la troisième strophe du cantique 231, et la deuxième partie de la prédication. Je suis désolée si c'est un petit peu compliqué, mais ça ne sera pas difficile à suivre. Mais d'abord, nous prions. Regarde, Seigneur, nous avons établi notre campement à mi-chemin de la vie. La peur et l'inconnu, la fatigue et le doute nous tiennent en ce lieu. La joie des commencements s'effrite quelquefois sur la route et le courage peut nous manquer pour des marches nouvelles. Fais-nous donc la grâce d'espérer sans retour et de t'accompagner aussi loin que mène le désert et qu'entraîne l'amour. Redis-nous aujourd'hui ta parole qui fait vivre. Amen.
Bonjour. Chapitre 17 du livre du Lévitique. J'ose pas y toucher, ça l'arrête à chaque fois. Bon, ça marche toujours, oui. Chapitre 17 du livre du Lévitique, versets 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. Le même fait raconté différemment. « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Au livre des Actes des Apôtres, donc chapitre 2, versets 42 à 46. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Je vous propose de vous lever pour chanter avec moi les deux premières strophes du cantique 231. Je vous invite à vous asseoir. Alors vous l'avez entendu, ces textes sont très importants, très riches, et bien sûr on pourrait faire une prédication à partir de chacun d'eux. Mais je vous propose aujourd'hui d'y réfléchir brièvement, à partir de deux éléments. La dimension anthropologique de la scène, et aussi ce que les évangiles et les actes nous disent de la manière dont elle est commémorée dans les premières communautés et ce que ça implique pour nous dans nos choix de célébration. Alors quand je parle de dimension anthropologique, je fais référence à la manière dont les paroles de Jésus nous rattachent à des temps très anciens, presque au premier temps de l'humanité. Dans les Pyrénées orientales, par exemple, dans la grotte de Tautavel, qui a été habitée par des clans d'humains pendant au moins 100 000 ans, entre moins 500 000 et moins 400 000 ans avant notre ère, et donc avant que Jésus ne dise ces paroles, on a retrouvé de nombreux ossements humains, dont certains avaient été soigneusement raclés par d'autres humains pour ne perdre aucune miette de leur chair, et certains cassés pour en consommer la substantifique moelle. Et on ne sait pas grand-chose d'autre sur ces pratiques anthropophages, ni sur celles pratiquées, on le sait aussi, à certains moments par des hommes de Néandertal, et même plus tard par des Homo sapiens. Est-ce que ces pratiques étaient uniquement destinées à s'alimenter? Ou bien, sans doute, à d'autres moments, tout ça s'étend sur des périodes tellement longues, à d'autres moments, peut-être qu'elles avaient déjà une dimension symbolique. Comme plus tard, il y a seulement 30 000 ans environ, celle de s'approprier la force d'un ours en mangeant sa chair, avant de se mettre sous sa protection, par exemple, en plaçant sa tête sur une pierre plate un peu surélevée. Alors, vous allez me dire, mais comment peux-tu comparer notre sacrement du partage à ces mœurs de sauvages, ces humains mal dégrossis d'avant même l'homme de Néandertal, des êtres qui ne pouvaient pas encore peut-être vraiment parler? Quel rapport avec ces belles paroles de Jésus, celui en qui Dieu se donne aux humains, sans restriction, oui, bien sûr, totalement, y compris par le don symbolique de sa personne physique? Eh bien, je pense qu'il faut regarder sans complaisance ces paroles de Jésus, parce que ce qu'il dit, on l'a entendu par rapport au Lévitique, c'est énorme et c'est interdit. Et on comprend que les Juifs aient protesté et que les premiers chrétiens aient été accusés de cannibalisme. Oui, nous l'avons entendu dans la première lecture. Dans l'Ancien Testament, l'interdit du sang, l'interdiction de la consommation du sang est peut-être considérée par certains comme plus importante encore que les 10 commandements, car les commandements ont été donnés à Israël, alors que l'interdiction du sang semble, là en tout cas, donnée, considérée à tout le monde, considérée comme universelle. Les Juifs sont les représentants d'une religion qui s'est construite pendant des millénaires autour d'interdits qui aujourd'hui peuvent décourager, voire fâcher, tellement on a l'impression qu'ils obéissent à une logique qui nous est totalement étrangère. Mais on peut se demander, et certains anthropologues le font, par exemple, l'anthropologue Mary Douglas se pose la question dans son livre « L'anthropologue et la Bible ». Oui, on peut penser que ces interdits alimentaires, et en particulier, bien sûr, celui de la consommation du sang dans l'alimentation, et toutes ces divisions entre espèces dites pures et dites impures, tout cela provenait peut-être d'un désir de comprendre et d'organiser le comportement de l'homme dans la création, le désir de se conduire bien, justement, pas comme des sauvages, différemment des populations que l'on côtoie et que l'on perçoit, dont on perçoit le comportement comme primitif. Et les interdits alimentaires sont peut-être justement une manière de se démarquer de ce mode de vie perçu comme non civilisé. Et nous entendrons tout à l'heure, avec l'évangile de Jean, qu'en entendant ces paroles, les Juifs sont horrifiés. Et un peu plus loin, on ne l'entendra pas, mais je vous le reciterai, le texte nous dit même que ces déclarations ont incité plusieurs disciples de Jésus à le quitter. Et je sais que pour certains d'entre nous encore, ou à nouveau aujourd'hui, d'une certaine manière, même symbolique, se rappellent des paroles de Jésus, qui est pourtant la base de l'institution de notre sacrement de Sainte-Cène. Ces paroles peuvent poser problème, et on le comprend. Et pourtant, si j'ai longuement parlé de cette dimension anthropologique, c'est parce que justement, je crois, moi, que quand nous rappelons ces paroles de Jésus, nous pouvons assumer aujourd'hui cette dimension. Nous assumons cette dimension anthropologique qui nous relie au premier temps de l'humanité. Elle ne fait pas de nous des sauvages. Au contraire, elle nous permet de mesurer le long chemin parcouru dans la recherche du Seigneur et avec lui. Le chemin qui nous a fait passer de l'acte au symbole. Parce que nous savons tous, et dans notre Église, nous l'affirmons, que Dieu n'est pas présent dans le pain et le vin, que Christ n'est pas présent dans le pain et le vin, mais que le rappel des paroles de Jésus nous rend sensibles à sa présence parmi nous. Et c'est pourquoi, comme les premières communautés regroupées autour de Marc, je n'ai pas cité l'évangile de Marc, il est légèrement antérieur à l'évangile de Matthieu et les paroles sont très semblables et je ne voulais pas, il y avait déjà beaucoup de lectures. Donc les premières communautés regroupées autour de Marc, de Matthieu puis de Luc Nous pouvons prendre cette nourriture avec joie et simplicité. Simplicité de cœur, comme Luc le dit dans les actes, et simplicité, nous le savons, dans les gestes. Car nous pensons qu'en nous abstenant de toute forme de théâtralité, nous pouvons, sans idolâtrie, faire mémoire de ces paroles fondamentales. Alors, ce que Jésus a vraiment dit, on ne le sait pas tout à fait. Mais, étant donné l'importance donnée à ces paroles dans tous les évangiles et dans toutes les communautés, il me paraît plus que probable, en tout cas c'est ma conviction, mais vous n'êtes pas obligé de la partager, qu'elle se rapporte à un événement qui s'est réellement produit, une ou même sans doute plusieurs fois. Mais ce que je souhaiterais aujourd'hui également souligner à partir de ces textes, vous l'avez sans doute perçu en les entendant, c'est qu'au moment où ils sont écrits, autour des années 70 pour Marc et Matthieu, 80 pour Luc, la célébration de la scène par le partage du pain et du vin est déjà pratiquée, fréquemment pratiquée dans les communautés. Et elle est déjà pratiquée avec les mots que les rédacteurs des évangiles vont utiliser. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas les paroles de Jésus, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'au moment où les rédacteurs des évangiles les incorporent dans le texte, ces paroles font déjà partie d'une liturgie pratiquée dans les communautés. Et ce que Luc, sans doute sous l'influence de l'apôtre Paul, qui en parle dans la première lettre aux Corinthiens, on l'entendra tout à l'heure, ce que Luc a ajouté aux paroles initiales nous permet de penser que la scène est pratiquée comme un mémorial, comme nous le faisons aujourd'hui. Faites ceci en mémoire de moi. Mais voilà qu'environ 10 ans plus tard, le rédacteur ou les rédacteurs de l'Évangile selon Jean, peut-être le disciple bien-aimé, en tout cas une partie, lui-même, peut-être un autre, peut-être plusieurs. Et dans le texte que nous allons entendre, les spécialistes ont aussi repéré quelques versets ajoutés plus tardivement. Donc Jean, celui qu'on appelle Jean, le rédacteur de l'Évangile selon Jean, fait un choix différent. Il ne raconte jamais la scène. Il y fait allusion lorsqu'il parle du dernier repas. Mais il ne raconte jamais les gestes associés aux paroles. En revanche, il rapporte très longuement, dans son style à la fois poétique et mystique que nous allons entendre, des paroles qu'il attribue à Jésus et qui constituent en fait une première explication théologique de la scène. C'est un peu comme s'il disait à ses lecteurs, à ses auditeurs, ce que nous célébrons, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que Jésus lui-même en a dit. Alors nous allons entendre ce texte, qui est un très beau texte, un texte porteur de toute la spiritualité de Jean, un texte qui peut nous éclairer sur la profondeur du don de Dieu et nourrir donc notre propre spiritualité, mais aussi, bien sûr, parce qu'il représente déjà une affirmation théologique. C'est un texte qui a ouvert la porte à toutes sortes de dérives et d'interprétations abusives. Et nous entendrons également un court extrait de l'apôtre Paul qui a également contribué à ces interprétations.
Donc voici le premier texte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6 et au verset 41 à 58. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. La deuxième lecture, nous la ferons donc dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort.
Merci beaucoup. Je vous propose que nous prenions la troisième strophe du cantique 231. Tu as suivi nos durs chemins. Vous pouvez vous lever.
Tu as suivi.
Ce n'est pas, parce que des textes dérangent qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas les lire et qu'il ne faut pas en parler. Bien sûr que les textes que nous venons d'entendre peuvent déranger. C'est souhaitable, à vrai dire. Alors, on ne sait pas très bien qui est le rédacteur, comme je l'ai dit, de l'évangile de Jean, ou plutôt les rédacteurs. Mais une chose est sûre, en tout cas. Nous avons entendu ici quelqu'un qui cherche à exprimer avec sincérité et avec foi, ce qu'il pense que signifiait pour Jésus et ce que signifie pour lui vivre uni à Dieu. Avec le pain et le vin, et ça c'est très clair, il ne s'agit pas d'un don pour survivre, comme celui mentionné de la manne dans le désert. Il s'agit d'un don pour vivre et pour vivre dans l'union avec Dieu, c'est-à-dire un don qui unit, d'une manière ou d'une autre, vie spirituelle et vie matérielle. Et je pense que, comme toujours chez Jean, le concept de vie doit d'abord être interprété au sens spirituel, parce que le risque dont je parlais donc tout à l'heure est grand, de transformer cette méditation sur la recherche d'union spirituelle avec Dieu dans la personne de Jésus, de transformer cette méditation en dogme. Et le risque est grand, parce que presque pour la première fois, après Paul, j'en parlerai tout à l'heure, mais pas la dernière, loin de là, nous avons ici une association du concept de vie, je suis le pain vivant, de l'idée de vie éternelle, et même de résurrection, avec le fait d'absorber le pain et le vin. Non seulement dans le texte de Jean, Jésus semble affirmer une identification entre sa personne, cet homme dont tous connaissent le Père et la Mère, et le pain vivant qui descend du ciel, mais son discours, on l'a entendu, semble rejeter loin de cette vie, avoir la vie en soi, ceux qui refuseraient cette pratique. Et donc, reconnaissons-le, si nous écoutions la lettre de ce texte, sans en chercher l'esprit et sans chercher aussi à l'interpréter, il pourrait nous scandaliser, autant que les Juifs, et que ce dont il est dit, 8 versets plus loin, je ne vous ai pas tout mis, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alors je parlais tout à l'heure des interprétations abusives, ou qui nous paraissent telles aujourd'hui, en tout cas c'est mon avis, qui ont été faites de ce texte. Et sans vouloir trop insister sur ce point, il n'est pas difficile, encore une fois, de voir que si on s'attache à la lettre de ce texte, on peut très rapidement tomber dans la théâtralité, l'idolâtrie. Et on peut aussi voir comment les institutions ecclésiales ont pu y trouver au fil des siècles de quoi justifier de multiples dérives, condamnations ou abus de pouvoir. Et cela quelquefois jusqu'à aujourd'hui. Et on peut même penser à certaines églises protestantes. J'espère qu'aucun de nos anciens n'a connu ça, mais qui sait ? Certaines églises protestantes où la participation à la scène était soumise à condition, il fallait d'abord donner le jeton qu'on avait reçu en payant la dîme. Et je crois que je vois que c'est pas si ancien que ça. Et à des degrés divers, quelle que soit son église d'origine, quelle que soit notre église d'origine, ces dérives sont pour tout chrétien, bien sûr, une source de souffrance. Nous souffrons, bien sûr, quand une institution humaine, parce qu'elle est humaine, c'est dans sa nature, mais elle dénature le symbole de ce don total et inconditionnel fait aux humains pour le transformer quelquefois en instrument de contrôle ou d'exclusion. Et nous avons entendu avec Paul, dans le chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, que ça commence très tôt, avec des arguments d'ailleurs très peu convaincants. Non seulement il met la participation à la scène sous condition, encore il s'agit d'un regard intérieur. Chacun s'examine soi-même. On n'est pas encore examiné par l'autre. Mais pour savoir si on en est digne, alors qu'on sait qu'on en est tous indignes, que c'est Christ qui nous en rend dignes, personne n'en est digne. Et puis nous souffrons aussi, et puis en plus, on l'a entendu, avec un argument cette fois qu'on aimerait oublier, il explique qu'apparemment il y a eu une épidémie quelque temps avant, il y a eu beaucoup de malades et pas mal de morts, et c'est pour ça, c'est parce que des gens ont participé indûment à la scène. Alors on va essayer de ne pas s'attarder trop sur ce verset-là. Et si nous souffrons, eh bien c'est pour les mêmes raisons que nous aimons ce texte, parce qu'à sa manière, ce texte nous dit comment ces paroles, apparemment et réellement, d'une certaine manière scandaleuses, de Jésus, manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang, comment elles peuvent répondre de manière symbolique à notre désir d'unité intérieure et d'unité en général. Ces paroles nous unissent, j'espère l'avoir expliqué, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, elles nous unissent aux humains des temps les plus reculés. Elles nous unissent entre nous. Elles nous unissent à Christ et en Christ, elles nous unissent à l'objet de notre recherche ultime, cela qu'on appelle Dieu. Et ce que le texte nous dit aussi, c'est que ce don est un don exigeant. Un don qui donne à la fois un sentiment, qui peut donner à la fois un sentiment de plénitude et un sentiment de manque. Et je crois que le rédacteur de l'évangile de Jean vit ce manque de manière très aiguë. C'est ça qui lui donne cette intensité spirituelle. Comme la parole dont elle est la manifestation, la scène est une nourriture qui donne faim, une nourriture qui accroît notre recherche de Dieu. Cette recherche que chacun de nous vit de manière différente et qui pourtant nous réunit, et en ce moment encore, autour de sa parole, comme aussi dimanche prochain autour de son pain. Eh bien, je crois que cette recherche correspond à l'aspiration la plus profonde de tout être humain, cette recherche dont je parlais d'unité intérieure, que Jean, avec ses mots à lui, appelle « demeurer en Dieu et lui en nous ». Et je pense que si nous sommes ici ce matin, c'est aussi parce que nous cherchons déjà à vivre ce désir ensemble, parce que nous savons que cette recherche d'unité intérieure, pourtant si personnelle, passe justement par la communion. La communion avec l'humanité depuis son origine. La communion dans la recherche de Dieu, c'est-à-dire du Dieu des origines et des fins dernières. Celui que l'auteur de l'Apocalypse, peut-être un autre Jean, appellera l'alpha et l'oméga. La communion avec le Dieu des origines et des fins dernières, la communion entre nous, la communion tout simplement dans la recherche fondamentale et ultime du sens de notre vie. Amen. C'est le moment des annonces. Ça va ? C'est le moment des annonces. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'atelier dans les deux semaines qui viennent, puisque ce sont les deux semaines de vacances scolaires. Mais personnellement, je vais prendre 3 jours de congé. Voilà. Mais Fred a la gentillesse de poursuivre l'ouverture musicale du temple le lundi. Donc le temple sera ouvert de 12h30 à 14h et vous pourrez y entendre de l'orgue demain. Voilà. Par ailleurs, je voudrais juste vous dire 2 mots sur le dimanche 28. C'est donc le culte de la Réformation, j'en ai parlé. J'espère que nous pourrons être assez nombreux, bien que ce soit le milieu des vacances, et d'autant plus nombreux que nous pourrons ainsi accompagner Elisabeth, qui a demandé et recevra ce jour-là un accueil liturgique dans notre église. C'est une cérémonie qui est prévue et qui existe depuis longtemps, même si elle n'est pas souvent pratiquée. Elle est évidemment totalement facultative, en réalité la plupart du temps réservée à des personnes qui ont, je l'expliquerai de nouveau la semaine prochaine, qui ont été baptisées et qui ont confirmé dans une autre église, mais qui à un certain moment de leur vie souhaitent que leur entrée, leur engagement dans l'église protestante en réformée en l'occurrence soit marquée par cet événement, une étape dans un parcours, et donc nous serons très heureux d'accompagner Elisabeth. Est-ce que tu aurais le courage de te lever, Elisabeth, 2 minutes? Voilà. Merci beaucoup. Et donc, nous serons très heureux. Ce sera un bref moment. Bien sûr, ça avait tout son sens dans le culte de la Réformation. Voilà. Et donc, on m'a demandé aussi, si j'ai bien compris, c'est les 10 ans, c'est ça, de la communauté camerounaise. Ah, merci, Isabelle. Je veux bien parce que je suis un petit peu perdue. Je crois que c'est à 15h, mais c'est...
Bonjour, c'est une invitation de l'Église camerounaise à venir le 28 octobre pour ce jour d'anniversaire de l'Église camerounaise. Il y a d'abord un culte à 12h et puis à partir de 15h, une chorale, la chorale camerounaise. Alors là, c'est toujours très vivant. Hein. Et puis, j'en profite pour vous reparler de la fête de l'amitié. Il y a des gens qui ont amené plein de bouquins qu'il va falloir trier, c'est génial. Bon, ça s'approche. Voilà, si vous des objets, on a besoin d'objets pour la brocante. Allez, merci.
Merci beaucoup, Isabelle. Et donc, c'est le moment, s'il n'y a plus d'annonces, d'accord. Donc, c'est le moment de l'offrande. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de nous permettre de donner de notre temps, de donner de nos paroles, de donner de notre argent pour la communauté et donc pour toi. Amen. Et donc pendant l'offrande, je vous propose de chanter, debout je pense, le cantique 221 au Saint-Esprit. Esprit de vous, dans le cœur de ton fils, prie et chante, Alors nous allons nous unir dans la prière fraternelle. Elle sera suivie du Notre Père et je voudrais donner quelques explications. Le Notre Père, comme je crois, j'espère l'avoir longuement expliqué pendant mes deux prédications au mois de septembre, est une prière communautaire. Elle commence par notre, elle fait de nous, elle contribue à nous faire Église. Et bien sûr, vous êtes libre de la dire ou pas, mais moi, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, je me recule du micro, parce qu'il n'y a aucune voix prépondérante, et il est souhaitable que nous nous entendions mutuellement, au moins un peu. Voilà. Donc, unissons-nous dans la prière fraternelle. Seigneur Dieu, il ne faudrait pas que cette prière soit une manière de rester en retrait, en te laissant le soin de faire tout le travail. Aussi, donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ. Donne-nous le courage d'ouvrir les yeux sur les injustices, qu'elles viennent de l'argent, du pouvoir, de la lenteur, de l'inquiétude, des peurs humaines, et de les résoudre, de tenter de les résoudre avec nos moyens, en partageant mieux, en partageant toujours, même si cela doit amener la perte de notre tranquillité. Donne-nous le courage de participer activement à notre communauté paroissiale pour qu'elle demeure le lieu où notre vie, avec ses conflits et ses recherches, se trouve éclairée par la foi. Nous t'en prions, ne nous laisse pas au repos, Seigneur. Aide-nous à être de ceux qui croient, c'est-à-dire de ceux qui cherchent. Car de nos pensées, de nos mots, de nos gestes et de nos silences montent le cri des hommes et la détresse et la bonté et aussi les murmures des voix que l'on oublie. Seigneur Dieu, aide-nous à espérer. Par ton esprit, élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins, élargis notre prière aux dimensions du monde. Et c'est dans cet esprit qu'ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pardon. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Et nous prendrons ensuite le spontané, page 30, dans le petit livret bleu. Et ensuite, nous nous rassierons pour écouter l'orgue. Allons et marchons. Que le monde voit notre lumière, qu'il entende notre joie, car nous sommes les témoins de la présence de Jésus le Christ parmi les hommes. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne vers vous sa face et vous donne sa grâce. Il porte son regard sur vous et vous donne sa paix. Amen.